Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons vous proposer dans son intégralité une conférence inaugurale du colloque organisé à Clamecy les 11 et 12 octobre dernier à l'occasion du centenaire de la publication de Colabrunion, roman de Romain Rolland. Romain Rolland est né en 1866 à Clamecy, il est mort à Vézelay en 1944. Colabrunion est un roman conçu en 1913, achevé en 1914 et ne fut en effet publié qu'en 1919. C'est une œuvre de détente dont le héros est Colabrunion, vert vieillard de Bourgogne du temps du roi Louis XIII, qui sait boire et compter à la bonne Françoise. La composition suit le calendrier, plusieurs récits embrassent les fêtes et les différentes périodes de l'année agricole. Les sujets sont donc tirés de la vie de campagne, bourguignonne, ils sont nourris des chroniques clamecicoises, des légendes nivernaises, du folklore et des proverbes gaulois. Colas raconte à sa petite fille l'histoire de l'alouette et de la chandeleur au seuil du printemps. Il finira par des contes de fées dits au coin de la cheminée qui flambe, cependant que dehors tombent les premiers flocons blancs. Il s'en va également bavarder avec d'autres de sa trempe sur la vigne, sur le temps, sur le siège de Clamecy où le berger, le loup et l'agneau, bel exploit où ennemis et amis font la paix au milieu d'un banquet pantagruélique arrosé des meilleurs crus du pays des vins. Pétulante figure que celle du curé de Brève, compère de Colas, adorateur de la Sainte Vierge, mais aussi de Bacchus, bon prêcheur en chair, mais aussi craignant les exorcismes des paysans partis à la croisade des Hannetons. Cette conférence inaugurale, nous l'avons enregistrée le 11 octobre dernier à la salle gothique de Vézelay, et c'est une conférence qui est donnée par Jean-François Bazin, romancier, journaliste, ancien président du Conseil régional de Bourgogne. Je vous propose tout de suite de découvrir cette conférence enregistrée le 11 octobre, Jean-François Bazin.
Parmi les innombrables faits et gestes de Colas, voici bien les plus singuliers. Un colloque. Qu'est-ce à dire ? Que penserait-il si l'on avait pensé à lui réserver un colloque, une communication ? Le mot, la chose, n'appartiennent pas à sa langue et qui plus est, à sa culture. Je vous remercie d'avoir bien voulu me confier la première des nombreuses clés que durant ces journées vous introduirez dans cette bien singulière serrure. Des raisons médicales m'interdiront de prendre part à notre colloque, mais soyez-en sûr, je lirai avec passion les actes de ces rencontres de Vézelay et de Clamecy. Colabrunion, bourguignon ou nivernais. J'ai repris le livre de poche que j'avais dans mon enfance, enfin dans ma jeunesse, et pour le relire, et je lis au dos. J'ai senti un besoin invincible de libre gaieté gauloise qui, jusqu'à l'irrévérence, en même temps, un retour au sol natal que je n'avais pas revu depuis ma jeunesse, m'a fait reprendre contact avec ma terre de Bourgogne, nivernaise, à réveiller en moi, etc. Eh bien, c'est lui qui parle de Bourgogne nivernaise. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Colabrunion, bourguignon ou nivernais, ben, lui, il a dit qu'il était les deux. Me voilà bien embarrassé, puisque le sujet était traité, c'était à la fois la Bourgogne et le nivernais. Je pense que nous allons peut-être analyser ça de façon plus fine et nous demander si, en fin de compte, cela ne pencherait pas plutôt d'un côté. Nous allons voir. D'abord, d'autant qu'il y a des personnes qui parfois viennent d'un petit peu loin, qu'est-ce que le Nivernais en deux mots ? Le Nivernais, c'est une ancienne province de France dont la majeure partie forme aujourd'hui le département de la Nièvre. Ses habitants sont les Nivernais et c'est entre l'Orléanais, le Bourbonnais, le Berry et la Bourgogne. Oui, le Nivernais n'a jamais été une région au sens où on les entend maintenant. En revanche, j'ai bien connu, en 64, j'étais journaliste à l'époque et je m'occupais des affaires régionales, j'ai bien connu le problème de la Nièvre lorsqu'on a créé la région de Bourgogne. Et cette question s'est posée. C'est-à-dire qu'une partie importante des habitants de la Nièvre s'était dit qu'on pourrait peut-être faire une région avec le Bourbonnais et le Berry. Je dois dire que ça n'a jamais enchanté le Berry ni le Bourbonnais. Et en fin de compte, cette affaire n'a pas abouti. La Nièvre a été rattachée à la Bourgogne. Et elle l'a été par la vertu de François Mitterrand, qui, lui, maire de Château-Chinon, pensait qu'il était préférable d'être plutôt du côté Morvan, du côté Bourgogne, que du côté du Berry ou du Bourbonnais. Et comme il y a eu égalité des voix au Conseil général de la Nièvre, j'ai vécu cette séance, M. Mitterrand s'est levé et a dit: la mienne compte pour la majorité, nous irons en Bourgogne. Et donc tous les élus présents ont admis que le président Mitterrand décide que la Nièvre serait bourguignonne. Cela dit, elle en est loin sur certains côtés, et lorsqu'on a rattaché récemment la Bourgogne à la Franche-Comté, ce qui était autrefois une chose réelle, mais ce qui avait disparu au fil du temps, pour une Franche-Comté espagnole, il est vrai. Lorsqu'on a rattaché, eh bien, cette question s'est à nouveau posée. Vous savez, quand on est à Montbéliard et qu'il faut aller à la Charité-sur-Loire ou encore bien plus bas, à Nevers, c'est vrai que ça fait de longues étapes. Colabrugnon, Bourguignon ou Nivernais, la Bourgogne, vous savez ce que c'est, elle a été rattachée donc récemment à la Franche-Comté, et quinquennat, cette union se met peu à peu en place. Colabrugnon, Bourguignon ou Nivernais. Dire et contredire n'est-il pas une maxime que l'on peut accoler à Colabrugnon, tout autant qu'à son père spirituel? Romain Rolland n'hésite pas à se revêtir de ses personnages littéraires. Christophe, enfin mort, vit une autre enveloppe humaine, plus large ou m'incarnée. Cola fut la première qui me tomba sous la main. Depuis longtemps, elle attendait. Il écrit ce roman en 1913, surtout oubliant les résolutions qu'il confiait à Malvina von Meisenburg en 1891, l'antipathie invincible que j'ai pour mon petit pays, Clamcy, ou encore je n'écrirai rien sur une ville que je déteste, j'y ai passé une enfance trop mélancolique, je ne veux rien lui devoir. Pas dire que sur le plan du Nivernais, notre Romain Rolland démarre très bien. Hein, une ville que je déteste, Clamcy. Oh, il a changé d'avis un peu plus tard. Très original au regard de l'œuvre de Romain Rolland, ce roman se situe en effet en son port d'attache familial dans les lieux de sa jeunesse. Clamecy, brève, à proprement parler, et sans entrer dans une querelle de géographe, il s'agit du Nivernais relié à la Bourgogne sous le nom de Bourgogne nivernaise, qui apparaît à de fréquentes reprises dans le livre, ou encore formule, comme on le lit ici, « Colas-Brugnon poursuit son bavardage et ses courses dératées au vieux pays nivernais et au dehors. » Donc, Nivernais, Romain Rolland en parle. Romain Rolland est sensible à cette présence voisine. Cette autre présence, ô Morvan, colline bleue, rivière transparente, saule de pâle argent comme un ruisseau léger, voûte profonde des forêts, auguste bourdonnement des cloches de Vézelay qui dresse sur son roc au-dessus de la plaine sa sainte cathédrale, aux deux puissantes tours. Chant lointain qui me vient de mon doux Nivernais. Bon, vous voyez que Romain Rolland emploie le mot Nivernais de façon assez fréquente. En revanche, il n'évoque pas ici les Vaudionnes, hein, les Vaudionnes, Clapsy, c'est les Vaudionnes aussi, ni une Nièvre ligérienne. Ben, elle est un peu, à vrai dire, loin d'ici, ce n'est pas vraiment la Loire qui coule à Clamecy. Mon doux Nivernais, c'est l'atmosphère molle et tiède de ces pays de la Loire, propice à la douceur, à la paresse, écrit-il, et il poursuit en expliquant que si dans l'histoire le Nivernais a évité les violences fanatiques et d'autres malheurs, la volonté y a eu moins de part que le ne rien faire. C'est pas très gentil, le ne rien faire ayant plus de poids, semble-t-il, que la volonté. Ben, hein, c'est le Nivernais quand même du côté ligérien, de la Loire, de Nevers. Pourquoi Colas-Brugnon apparaît-il bien davantage comme un champ bourguignon? C'est vrai que moi j'ai été élevé en Bourgogne et Colas-Brugnon faisait partie des livres qu'on lisait habituellement et comme des livres bourguignons. Comme des romans bourguignons. Il est vrai que la Bourgogne le revendiquait beaucoup. Aurait-on affaire à une captation d'identité au détriment du Nivernais? La question n'est pas innocente dès lors que le Nivernais, territoire authentique du moins au regard de l'histoire, y perdrait un atout culturel de première valeur et devrait s'en tenir au seul héritage de mon oncle Benjamin, datant de 1841, bien antérieure, ou de l'œuvre de Jules Renard, contemporaine de Romain Rolland. Cette parenté bourguignonne n'exclut pas d'autres rapprochements. Ainsi, et curieusement, Victor Duruy, dans sa célèbre Introduction générale à l'histoire de France, 1874, consacre-t-il son chapitre 4 à un étonnant parallèle entre la Bourgogne et le Poitou, en laquelle il voit des jumeaux. On s'étonne moins de découvrir la parenté spirituelle de Pantagruel et de notre menuisier de Clamecy, établi par Dominique Drouin dans une des publications que vous connaissez bien.
Jean-François Bazin, à l'instant au micro, lors d'une conférence inaugurale du colloque organisé à Clamecy à l'occasion du centenaire de la publication de Colas-Brugnon, roman de Romain Rolland. Nous avons enregistré cette conférence le 11 octobre dernier à la salle gothique à Vézelay. On marque une première pause musicale et on retrouve la suite de cette conférence juste après ces wagons livres sur Radio Nous Sommes Ensemble jusqu'à midi.
Tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire, la même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Je connais tous un peu pareil, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt, on se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. Parce qu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt, on se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt, on se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Parce qu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt, on se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Un peu pareil, on se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt, on se ressemble parce qu'on ne s'aime pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de la conférence inaugurale Colas Brugnon, Bourguignon ou Nivernais par Jean-François Bazin, journaliste, homme politique, écrivain. C'est tout de suite à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio.
Chapitre 1. Toi, tu es un vrai Bourguignon. Colas Brugnon, Bourguignon, les deux s'accordent et pas seulement pour le bonheur d'une rime. L'ouvrage est truffé d'images, d'expressions propres à la Bourgogne, ou du moins attribuées aux Bourguignons. Ainsi, et notamment, « C'est à toi que je parle, trogne belle en couleur, trogne curieuse, au long nez bourguignon et planté de travers comme chapeau sur l'oreille. » Chapitre 1, l'alouette de la Chandeleur. Long nez bourguignon, est-ce que les bourguignons ont un long nez? Planté de travers, est-ce que les bourguignons ont un nez planté de travers? Mais Romain Rolland écrit au fil de la plume et il sent très bien ça. Ce qui est d'autant plus étonnant que ce roman est une rupture par rapport à tout de même ce qu'il a écrit auparavant et ce qu'il écrira plus tard. C'est véritablement une parenthèse, mais il était capable de la faire, de l'écrire, cette parenthèse. Alors, j'ai moi, Colas Brugnon, bon garçon, bourguignon, rond de façon et de besoin. J'ai moi, Colas Brugnon, bon garçon, bourguignon. Vous voyez qu'il le revendique. On ne peut pas dire qu'il ne le revendique pas. J'aime un meuble de Bourgogne à la patine bronzée, vigoureux, abondant, chargé de fruits comme une vigne. Allusion à Maître Huxambin, l'illustre ébéniste bourguignon français. Les bourguignons ne sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Dans le siège où le berger, le loup et l'agneau, c'est au manger que l'on voit ce que vaut l'homme qui aime ce qui est bon, je l'aime, Il est bon Bourguignon. Après le coup, Bourguignon sage. Ça, c'est un vieux proverbe bourguignon qu'il a emprunté, mais enfin qu'il a repris. On n'a pas le temps de mourir quand on est bourguignon. Bon, c'est plutôt lui qui le dit. Après le vin tiré, il faut le boire. Bon, classique. Tête saine, main précise, jarret solide et du mollet, brave ouvrier et bourguignon salé. J'y reviendrai. Que diable discuter ? Si c'est pour votre santé, il vous est ordonné, sur ce vin de Bourgogne ou sur ce cerveau-là, sur ce que l'on peut voir ou boire ou toucher ou manger. Quelques réflexions sur ces bourguignonneries saisies au vol dans le roman. Est-ce que tout avait cours au XVIIe siècle ? Ça, c'est un peu le problème du roman. Il prête à son collabrugnon une vie au XVIIe qui assurément n'était pas celle-là, ni son langage. On ne parlait certainement pas comme ça à Clamcy au XVIIe siècle. Mais c'est ainsi. Et il est tout à fait normal qu'un écrivain adapte la langue au livre qu'il a envie de voir lu. Sinon, qui irait lire un roman, surtout de ce type, dans une langue du XVIIe. L'écrivain pratique ici, comme très souvent, les auteurs de romans historiques, en bon français assaisonné de quelques mots ou expressions en patois. En fait, il sème du patois, sème des mots dans un langage qui est français. Il faut bien le reconnaître. Une erreur très probable au chapitre 6, les oiseaux de passage ou la sérénade à Hanois. Ah, ça, c'est la seule que j'ai vraiment trouvée dans le livre. Au XVIIe siècle, la greffe n'était pas encore pratiquée en viticulture bourguignonne. La greffe, c'est le phylloxéra, c'est la fin du XIXe, enfin du moins pour ce qui est de la Bourgogne et probablement de la vigne nivernaise. Non, ça, je crois que Collabrugnon, quand il greffe, s'est avancé un peu, s'est avancé même de 2 siècles. Cela étant, tout le reste me paraît tout à fait conforme à la réalité. Contrairement à une idée reçue, souvent quand on parle du livre, les propos assez crus ne sont guère présents dans le livre. On dit souvent, lui-même a dit que c'est un livre un peu leste, un peu... Non, à vrai dire, les passages qui pourrait choquer un jeune enfant, me paraissent bien limités. Et cet ouvrage qu'on a présenté aussi quelquefois comme paillard ne l'est pas. Sinon, un exemple, l'hôtesse au nom si doux, c'est Bézla, le nom promet, et la tenue au-delà. L'hôtesse s'appelle Bézla. Bon, alors c'est vrai qu'on peut... mais c'est à peu près... les seules choses que j'ai remarquées dans le livre, qui me paraît dans un français tout à fait convenable et qui ne heurte pas le tempérament sérieux. À propos du vin, moins remarquable il est vrai en Nivernais, Romain Rolland cite ici Coulanges la Vineuse, Fontette en Vézélien et surtout son trio d'As, Chablis, Pouilly, Irancy. Ah, il fallait l'écrire, ça. Chablis, Pouilly, Irancy, promu d'ailleurs Saint-Irancy. Des crus estimés, Pouilly étant sans doute Pouilly fumé, Sancerre, Pouilly-sur-Loire, et non Pouilly fuissé en Mâconnais. Phébus dardait son œil rond et brûlant sur nos nuques. Romain Rolland eût pu écrire « Le bourguignon dardait », car on appelait ainsi fréquemment le soleil, image même de la brillance, du rayonnement. De même, il eût pu s'écrier face à quelqu'un sachant vivre, et en flamand, « Ich bin ein echter Bourguignier !»« Toi, tu es un vrai bourguignon, comme on le dit encore de nos jours dans le pays des grands-ducs d'Occident. » Plus délicatement, Romain Rolland reproduit de jolies expressions « Qu'or il faut que je me débonde. » Ça, c'est tout à fait bourguignon. probablement de partout, ou la rosée de cave, pour parler du vin. C'est joliment dit. Nous sommes bien en Bourgogne, mais probablement aussi en Nivernais.
Jean-François Bazin, enregistré le 11 octobre dernier à la salle gothique de Vézelay pour la conférence inaugurale Cola Brugnon, Bourguignon ou Nivernais. Jean-François Bazin, journaliste et écrivain, qui est l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du vin de Bourgogne. Il est docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a présidé le conseil régional de Bourgogne et a été premier adjoint au maire de Dijon. On retrouve la suite de cette conférence dans une poignée de minutes, mais d'abord une nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
On rêvait d'irréel, de joyaux sous les pierres, de pépites. Des fantômes d'illusion nous cachaient le néant et le mal. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la terre, trouver sous la chair.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Cola Brugnon, Bourguignon ou Nivernais, c'est le thème de la conférence inaugurale au colloque organisé à Clamecy les 11 et 12 octobre derniers à l'occasion du centenaire de la publication de Cola Brugnon, roman de Romain Rolland. On retrouve tout de suite notre conférencier Jean-François Bazin, journaliste, homme politique et écrivain.
Arrêtons-nous, je vous l'ai dit il y a un instant, à une expression qu'il emploie et qui là est vraiment typique. C'est la plus importante à mes yeux. Bourguignon salé, rencontré à plusieurs reprises sous sa plume dans le roman et qu'il explique dans une correspondance datée de 1913, « Je suis venu ici d'abord par piété et pour éprouver mes pensées. » C'est quand il revient à Clamecy et dans ces endroits ici. Puis, parce que j'écris une sorte de poème héroïque à Gaillard où je veux faire revivre un type de cette race française dont je suis. Je veux une fois pour toutes me décharger de cette, en cette œuvre de mon vieux fond bourguignon. Bourguignon salé, comme on dit ici, c'est-à-dire franc rieur, libre rablaisien, avant de reprendre ma marche en avant, si je puis. Bourguignon salé. L'expression n'a pas disparu. Elle a d'ailleurs été considérée de façon diverse selon les interprétations. Elle n'est pas facile à interpréter. Et lui-même ne le fait pas d'ailleurs. Depuis 1892, 40 bourguignons établis dans la capitale forment le club des bourguignons salés. Donc des bourguignons salés, il y en a encore, puisqu'ils forment un club de bourguignons dans la capitale à Paris. Et s'il existe de nombreuses explications de ces deux mots accolés, la plus sûre est le contrebandier du sel. Les salines étaient nombreuses dans la comté bourguignonne. En Bourgogne, non, mais en comté, oui. Plein d'astuces et de courage, révolté permanent contre le pouvoir, je parle des contrebandiers du sel, esprit d'indépendance frondeuse, homme libre et conteur de nouvelles, incorrigible bavard. Tout n'est-il pas dit lorsque Colabrognon se dit bourguignon salé? D'abord, il se dit bourguignon, il faut bien le reconnaître. Et salé, c'est une expression bourguignonne qui n'est pas du tout une expression de Nivernais. C'est une expression de la Franche-Comté, d'ailleurs, beaucoup plus que de la Bourgogne proprement dite. Chapitre 2, la singulière rencontre de deux romans. Jamais un moment n'a sans doute été aussi favorable au régionalisme que le début du XXe siècle, constate Olivier Grenouillot dans son analyse des identités régionales en France, parue récemment. Parmi les nombreuses expressions de ce phénomène, figure la littérature sous sa forme romanesque. Sans doute Romain Rolland ne partage-t-il pas la mode régionaliste qui règne un peu partout aujourd'hui en Europe, ajoutant « je me sens à l'étroit dans ces petits pays ». De fait, Colabrognon ne se situe pas, bien évidemment, sur un registre lié à ce qui pourrait apparaître comme une mode. On ne peut cependant pas manquer de rapprocher cet ouvrage de Nono, l'œuvre de Gaston Roupnel, roman situé en Bourgogne et paru en 1910. Au regard de la notoriété de ses écrivains, prix Nobel de littérature, Romain Rolland ne peut pas être comparé à Gaston Roupnel, romancier débutant, authentiquement régionaliste. Celui-ci obtient cependant 4 voix sur 10 lors du prix Goncourt 1910, qui honore d'ailleurs Louis Pergaud, auteur comtois, également régionaliste, avec De Goupil à Margaux et La guerre des boutons. Nous rencontrons deux figures romanesques opposées, bourguignonne, et qui célèbre le vin chacune à sa façon. Colabrognon n'est cependant pas un vigneron, mais un artisan menuisier. Sa verve le rapproche beaucoup d'un personnage du vignoble. Nono, lui, est un pauvre vigneron de Gevrey-Chambertin. Si Colas boit volontiers sa rosée de cuve, de cave, s'il a pour devise travailler après boire et après travailler, il reste dans des limites que l'on espère raisonnables. Fierté des bourguignons, le vin ne porte atteinte ni à son corps ni à son esprit. Or, Marie trompée, Nono se situe à mille lieues de la sage truculence bourguignonne. Alcoolique invétéré, dès la première page, on y parle d'alcool et non pas de vin. C'est à Gevrey-Chambertin pourtant, alcoolique invétéré, il a bien souvent une chopine de trop et la douleur suinte de tout son être, à l'exception de quelques passages laissant peu de place à l'espérance. Ah, ce n'est pas le roman d'une Bourgogne aimable, estime Michel Ragon, vigoureux, qui voit Nono dans l'esprit de la terre, le roman d'Émile Zola. expression d'un naturalisme vigoureux qui sera de beaucoup apprécié en son temps et par les plus éminents critiques. Ce roman ne met jamais en valeur le grand vin de Chambertin, mais seulement la vinasse médiocre du bistrot. Cette présence de l'alcool sur la scène empêchera d'ailleurs Firmin Gémier de montrer Nono sur la scène, de monter Nono sur la scène du théâtre Antoine, alors qu'il avait accepté le rôle titre et le script. Il faut attendre Le Vieux Garin, roman paru en 1913, pour découvrir en Gaston Roupnel, qui fera carrière dans la géographie beaucoup plus tard, une plume infiniment plus agréable, riche en saveurs, de la part d'un facteur en côte de nuit, une figure peu éloignée de celle du menuisier de Clamcy, qui lui respecte le vin, je vous ai dit, il parle volontiers des crus qui sont les nôtres, et notamment celui de Pouilly-Fumé. Curieusement d'ailleurs, et aujourd'hui encore, Nono demeure bien souvent l'archétype du vigneron bourguignon, frère de Colas Brugnon, sautant sur la table pour pousser sa chanson, alors qu'il est tout le contraire. Quelle en est la raison? Sans doute une légende s'est-elle formée autour de Nono, de la part de ceux qui n'ont pas lu le roman, mais qui en parlent volontiers. Ça arrive, ça, des gens qui parlent d'un roman sans l'avoir lu. Et Nono, c'est typique. Toujours en Bourgogne, on en fait le personnage archétype du vigneron gai, truculent, alors que c'est une histoire d'ivrognerie du début jusqu'à la fin. C'est tout à fait étonnant. Personne n'a lu Nono aujourd'hui, d'ailleurs. Mais il est encore réédité, ce qui est pas mal. Au reste, l'ouvrage d'Henri Drouot sur la Bourgogne s'achève sur ces mots que commente Raymond Oursel. Ce n'est pas au Nono de Gevrey, mais à Colas Brugnon de Clamcy qu'il confie l'honneur de chanter le couplet final. À boire, à boire, à boire, à boire, les Bourguignons ne sont pas si fous que de se quitter sans boire un coup. C'est ce qu'on lit dans Colas Brugnon. Entre Colas et le Bourguignon d'emprunt, et Nono, le Bourguignon authentique, quel est le vrai ? Question posée.
Si vous venez de nous rejoindre et que vous prenez en cours de route cette émission Wagon Livre sur Radio, nous proposons aujourd'hui dans son intégralité la diffusion de la conférence inaugurale du colloque organisé à Clamcy les 11 et 12 octobre dernier à l'occasion du centenaire de la publication de Colas Brugnon, roman de Romain Rolland, une conférence qui avait pour thème Colas Brugnon, Bourguignon ou Nivernais par Jean-François Bazin que nous retrouvons dans une poignée de minutes, le temps de vous offrir une nouvelle pause musicale.
Je t'ai pas tout dit, je pars de Paris, perdu mon pari, je change de vie, je veux pas ton avis, je quitte le je prends le large. Sois barge et suis-moi. Tu m'as fait l'échappée belle. Échappée belle avec toi. Tu me feras la courte échelle. On sera des hors la loi. Une jolie parenthèse. Parenthèse avec toi. Pas de glace, je sens l'impasse, je passe à l'action, là je tourne en rond, fais tomber le masque et lis le fantasque, oui je tente ma chance, avance et suis-moi, je me fais l'échappée belle, échappée belle avec toi. On sera des hors la loi. Une jolie parenthèse. Parenthèse avec toi. On filera à l'anglaise. On se cachera dans les bois. nagera dans les bois.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Cola Brugnon, Bourguignon ou Nivernais, c'est le thème de la conférence qu'a donnée Jean-François Bazin le vendredi 11 octobre dernier à la salle gothique à Vézelay dans le cadre du colloque organisé à Clamecy à l'occasion du centenaire de la publication de Cola Brugnon, le fameux roman de Romain Rolland. On retrouve Jean-François Bazin pour la dernière partie de cette conférence.
Troisième chapitre. Les Bourguignons vus par. Le Bourguignon bénéficie d'une abondante bibliographie, généralement flatteuse. Nombreux sont en effet les portraits de Bourguignons sous leurs différents aspects. Ainsi, et à titre d'exemple, le peuple sous une écorce de naïve simplicité est plein de bonté et de douceur, en amour et loyauté de son prince. Il excède quasi toute créance, dont les meilleurs, principalement, emportent le sceau emprunt au cœur. Guillaume Paradin de Cuiseaux, Annales de Bourgogne. Les Bourguignons passent pour être spirituels, s'il est vrai que la température moyenne, la respiration d'un air libre et serein, renouvelée et dégagée des vapeurs grossières, donne en Bourgogne plus de fluidité au sang, plus de force et de vigueur à l'esprit et au sens que ne sont les organes et par lesquels il reçoit ses impressions. Toutes ces causes, en agissant d'une manière insensible et durable, ne rendraient-elles pas raison du grand nombre d'hommes distingués en tout genre que la Bourgogne a produit ? Ah, c'est pas mal dit. Abbé Claude pour courte épée, et Edme Béguillet dans la fameuse description du duché de Bourgogne en 1774. Il n'est rien de tel que la Bourgogne. Sans la Bourgogne, il n'y aura pas de Bourguignons. Les Bourguignons ont eu le génie d'une civilisation énorme et plantureuse, grasse et vineuse, qui roule les airs, drape l'éloquence et laisse des ronds de vin sur la table autour du jambon à la crème. Alexandre Vialat. Autre forme. Mais enfin, Alexandre Vialat aurait été assez bien avec Cola Brugnon. C'est un peu la même sorte de littérature. La Bourgogne est une nation dans l'ancien sens du terme. Elle a son peuple, ses arts, son architecture, et elle a eu sa politique. Elle garde son âme et son esprit. Esprit turbulent, particulariste, hardi, profond. Elle a produit Bossuet, mais elle ne pêche pas par excès de mysticisme. Sa religion est pratique et non pas contemplative ni casuiste. À vrai dire, dépourvue de fanatisme, trop intelligent et trop réaliste pour cela, le Bourguignon est à la fois un Gaulois fortement romanisé dans sa culture et fortement germanisé dans son sang, par Jean Aurieux. Et c'est à rapprocher d'une confession de Romain Rolland. Je ne suis point gaulois bibracte, mais burgonde romanisée d'Autun, ou peut-être venu du Jura franc-comtois. Il avait effectivement des ancêtres comtois. Chez nous en Bourgogne, Jules Roy écrit à Vézelay, chez nous en Bourgogne, rien ne manque et rien n'est de trop. On ne se nourrit pas d'illusions, et on ne prend pas des vessies pour des lanternes. On sait goûter le mot, le mets, la musique, les lèvres qui chantent et qui mangent, l'œil qui regarde. Ici, la rose a un arôme et un corsage qu'elle n'a nulle part ailleurs. Et l'oiseau qui me dit cela a quitté mon épaule pour se percher sur un arbre en face de vous. Jules Roy, en effet, écrit à Vézelay, et s'il parle d'une rose, c'est peut-être qu'il a pensé à Claudel et à ce vers fameux qui se trouve au cimetière de Vézelay. Qu'est-ce qu'un bourguignon, chapitre 4 ? Rassurez-vous, il y en a 4. Efforçons-nous de parvenir à une synthèse de toutes ces données. Qu'en pensent les savants ? Colabrugnon, étant un Nivernais, si l'on s'en tient au cadre, au décor, né à Clamcy, Brugnon est ici un nom de village et de famille, il est bourguignon par le sang et par les os, par l'esprit. Richard Bucaille s'est efforcé naguère de bâtir, je cite, « l'essai d'une définition spécifiquement anthropologique de la région à partir de l'exemple de la Bourgogne. » Écartant à juste titre l'idée de s'en tenir aux limites extérieures d'un groupe de départements ou même de tenter un dosage incertain de critères historiques, géographiques, etc., il propose de bâtir un concept exploité par les critères de l'anthropologie. Et il établit 3 éléments fédérateurs de l'image du bourguignon. L'autosatisfaction, pardonnez-moi, le bonheur d'être un bourguignon, son orgueil, la chanson « Je suis fier d'être bourguignon », etc. Alors le bourguignon est d'abord un autosatisfait. Je parle d'un savant qui a publié cette étude. Deuxièmement, la tradition culinaire. Bon, ça, c'est évident, mais beaucoup de régions peuvent se recommander de la tradition culinaire. Il parle de la viande en sauce au vin, des poissons de rivière en pochouse, les recettes des mères, des fameuses mères cuisinières. Et c'est vrai qu'on comprend en Bourgogne pourquoi on donne à la bouche le nom de palais. Et troisième élément, l'ostentation des bâtiments par leurs toits en tuiles vernissées. Oh, ça, oui, bon, soit. Mais enfin, est-ce que vraiment le caractère d'un bourguignon, c'est l'ostentation des bâtiments par leurs toits en tuiles vernissées? Certains historiens estiment d'ailleurs que c'est venu de Belgique, hein, c'est à l'époque des grands ducs d'Occident, à l'époque des grands ducs de Bourgogne, que les tuiles vernissées, c'est un usage qui était plus pratiqué dans le Brabant, dans le Hainaut, enfin dans ces provinces belges, plutôt aujourd'hui belges, que en Bourgogne proprement dit. En fait, si les deux premiers critères sont admissibles, encore que le premier s'applique à la fierté bien naturelle des originaires de chaque région, et le deuxième pourrait davantage encore faire appel au vin, que penser du troisième ? Certes, ces toitures, l'Hôtel Dieu de Beaune, etc., offrent un émerveillement souvent reproduit comme image même de la Bourgogne, sur les livres touristiques. La tuile vernissée se retrouve partout. Et d'autres régions, cependant, pratiquent ce type de toiture et celle-ci demeure assez exceptionnelle en Bourgogne. Dire qu'on en voit partout, non. Au reste, aucune région n'accepterait volontiers un portrait fâcheux d'elle-même. L'exemple du Morvan le montre bien. La réputation du « mauvais pays », entre guillemets, conduit à ce qu'on lit sur le journal du Morvan, hebdomadaire de Château-Chinon, à la fin du XVIIe siècle. Le Morvan est un pays insaisissable. Interrogez le Morvan d'eau, on disait Morvan d'eau, plus que Morvan d'eau. Il vous affirmera que le Morvan est tout près et qu'il commence au plus prochain village. On traverse ainsi tout le pays sans le rencontrer, d'où le phénomène inverse qui conduit à repousser souvent les limites du Morvan. Cela dit, la réponse est ailleurs. Cola n'incarne nullement la nature réelle du vigneron bourguignon, personnage de référence. Sans doute de telles figures ont-elles existé, ou se rencontre-t-elle encore, mais il faut chercher la réalité sur un autre chemin. Discret, pudique, retenu, son tempérament profond est celui de l'escargot dans sa coquille. Il sait cependant que le vin suscite la convivialité, la gaieté. Il force donc sa nature pour ressembler à l'image que les amateurs, la clientèle, attendent de lui. La personnalité épanouie de l'amateur du Bourgogne. Mais c'est un portrait de circonstance. Le bourguignon, lui, il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus tranquille, et est-ce qu'on n'a jamais entendu chanter dans une cave ? Oui, dans les romans, dans les chœurs bourguignons, quand ils chantent, mais pas vraiment dans une cave, on ne chante pas. Et Colas Brugnon, buveur heureux, client modèle. Ce mode de littérature romanesque a-t-il subsisté en Bourgogne au début du XXe siècle jusqu'à nos jours ? Doit-on citer Gabriel Chevalier et Clochemerle en raison de son succès sans doute ? Mais pas vraiment. Marcel Aimé, né à Joigny, mais considéré comme un écrivain comtois. Colette, ah oui, d'une certaine manière, à coup sûr Henri Vincenot, le plus proche de Colas Brugnon et de Nono, ou du Vieux Garin, ce roman de Roupnel. J'ai pris part un jour à un déjeuner, le jour de la fête du Charolais, en présence de Jacques Lacarrière et de Henri Vincenot. La discussion roule autour d'un chapiteau roman où un serpent se mange la queue. C'est celte et donc bourguignon, affirme Henri Vincenot. Oh, mais il existe de tels motifs dans toutes les civilisations, soutient Jacques Lacarrière. Après un moment, Henri Vincenot conclut comme seul un bourguignon sait le faire. C'est bourguignon et accessoirement c'est universel. Merci.
Je rappelle que nous vous avons aujourd'hui proposé dans son intégralité la conférence inaugurale du colloque organisé à Clamecy début octobre dernier à l'occasion du centenaire de la parution de Colas Brugnon de Romain Rolland, une conférence proposée par Jean-François Bazin, journaliste, ancien président du Conseil régional de Bourgogne et écrivain. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette conférence bien évidemment en podcast sur le site d'archives de Wagon Livre en pianotant via internet le www.yannickpetit.fr. Je voudrais remercier bien sûr les membres de l'association Romain Rolland et notamment sa présidente Martine Liégeois, ainsi que Jean Lacoste, philosophe et essayiste, et bien sûr remercier le directeur de la maison Jules Roy qui nous fait toujours bon accueil. En ce qui concerne le programme de Wagon Livre la semaine prochaine, 9 novembre, à quelques jours des commémorations de l'armistice de 1918, nous recevrons un jeune professeur d'histoire au Collège des Chaumes de Avallon et il nous présentera quelques documents, des lettres de Poilu qu'il lira au micro. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur cette grande guerre, ce grand désastre humain, mais nous aurons aussi l'opportunité d'évoquer les liens entre Grande Guerre et littérature, puisque effectivement des écrivains sont devenus combattants dès 1914 et des combattants sont devenus écrivains. C'est au programme de Wagon Livre samedi 9 novembre prochain, toujours à 11h sur Radionne. En attendant, merci d'avoir été des nôtres, merci d'être fidèles. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radio Anne.